Bonjour à toutes et à tous. Je suis enchanté, heureux d'être là avec vous ce matin pour ensemble partager la parole de Dieu. Et j'aimerais commencer cette prédication en vous disant que dans un article paru dans le journal Le Temps, intitulé Comment le coronavirus s'attaque à l'entier de notre corps, publié à la fin du mois d'avril, voici ce qu'on pouvait lire. On connaissait la capacité du coronavirus à s'attaquer aux poumons. Mais voilà que l'on découvre son habilité à entraîner des atteintes neurologiques, cérébrales, digestives, rénales, hépatiques, cardiaques, mais aussi vasculaires. Plus loin, un cardiologue de l'université de Yale insiste en disant que cette maladie peut attaquer presque n'importe quoi dans le corps avec des conséquences dévastatrices. Sa férocité est à couper le souffle, dit le chercheur. Alors, si le coronavirus a touché certains membres de nos églises dans leur santé, c'est finalement tout le corps de Christ, je le crois, toute l'Église qui a été atteinte dans sa santé. C'est tout le corps, mais aussi toute la corporalité, la matérialité de nos rencontres qui s'est vue mise à mal. Et en effet, nous voilà réduits à vivre nos cultes à travers des vidéos, à offrir nos offrandes numériquement via Twint et autres moyens, ou encore à exprimer notre joie dans notre réunion du mardi de prière, par exemple, notre joie ou notre approbation, pardon, via des émoticônes dans des réunions Zoom. Et c'est génial, je le crois. Les moyens techniques qui sont là sont extraordinaires. Mais ce n'est pas suffisant, chers amis. Car si un culte vidéo reste un culte, il n'est pas la pleine expression de ce qu'est l'expérience de tout un culte. Mais comme une grâce du Seigneur, depuis le week-end de la Pentecôte, nous pouvons enfin nous réunir. Dieu rassemble son peuple et lui accorde un nouveau souffle, son Esprit Saint, déposé sur chacun d'entre nous. Et quand il y a du souffle, le cerveau, le cœur, les reins, toutes les parties du corps peuvent alors se remettre à fonctionner. Église de Nyon, de Gland, de Gimel, de Lavigny, de Rolles, de Ballan, nous pouvons enfin nous remettre à fonctionner, doucement mais sûrement. Alors, sans tisser plus loin la métaphore de l'Église comme corps de Christ, vous l'avez reconnu, je vous invite à découvrir ensemble ce qu'en dit l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, et nous lirons des versets 12 à 26, et je lirai le texte dans la Bible en français courant. Et vous verrez le texte apparaître sur votre écran. Eh bien, le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Et nous tous, juifs ou grecs, esclaves ou personnes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint, et nous avons tous bu de ce seul Esprit. Le corps ne se compose pas d'une seule partie, mais de plusieurs. Si le pied disait « Je ne suis pas une main, donc je n'appartiens pas au corps », il ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Et si l'oreille disait « Je ne suis pas un œil, donc je n'appartiens pas au corps », elle ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Si tout le corps n'était qu'un œil, comment entendrait-il? Et s'il n'était qu'une oreille, comment sentirait-il les odeurs? En réalité, Dieu a disposé chacune des parties du corps comme il l'a voulu. Il n'y aurait pas de corps s'il ne se trouvait en tout qu'une seule partie. En fait, il y a plusieurs parties et un seul corps. L'œil ne peut donc pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi » et la tête ne peut pas dire non plus au pied « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables. Celles que nous estimons le moins, nous les entourons de plus de soins que les autres. Celles dont il est indécent de parler sont traitées avec des égards particuliers, qu'il n'est pas nécessaire d'accorder aux parties plus convenables de notre corps. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur aux parties qui en manquent. Ainsi, il n'y a pas de division dans le corps, mais les différentes parties ont toutes un égal souci les unes des autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie est honorée, toutes les autres s'en réjouissent avec elle. Ainsi s'achève notre lecture de la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12. Et ceux qui connaissent bien ce passage, hein, qui traite du corps, hein, de l'Église comme corps de Christ, peuvent aussi lire un autre passage en Romains 12. Vous pourrez lire cela à la maison. C'est facile à retenir, 1 Corinthiens 12 et Romains 12. Dans cette prédication, j'aimerais relever trois réalités spirituelles qui se dégagent de ce texte. La première, et c'est ce que Paul met en avant, c'est que nous avons besoin les uns des autres. Et c'est les versets 15 et 16 et le verset 21 qui soulignent cela en particulier. Et en disant cela, Paul nous dit qu'il nous faut absolument éviter deux écueils. Le premier, c'est croire qu'en tant que membre du corps, on pourrait être inutile ou quelque part pas assez doué, pas assez doté de talent, en n'ayant pas reçu suffisamment de dons. Et ça, je crois que c'est un écueil dont chacun peut dans sa vie, un état dans lequel on peut passer, se croire inutile, croire que dans l'Église, finalement, on ne sert à rien. Et c'est un écueil que Paul dit qu'il faut éviter. L'autre écueil, au verset 21, c'est de croire qu'on pourrait se sentir supérieur. Ça, c'est à l'autre extrême. L'extrême opposé, c'est de croire que l'on pourrait se sentir supérieur. Là aussi, un écueil à éviter absolument lorsque l'on fait partie du corps de Christ. Alors, il nous faut admettre que nous avons tous besoin des uns et des autres pour le bien du corps, mais aussi pour l'efficacité du corps. Alors, imaginez un instant, fermez les yeux, et vous vous mettez à couper des carottes avec un couteau tranchant. Alors, ne le faites pas, évidemment, mais imaginez un instant couper des carottes en fermant des yeux. Ou inversement, essayez de couper n'importe quel légume par votre seul regard. Alors, à part dans quelques films extraordinaires, vous verrez que c'est tout à fait impossible. Dans le premier cas, on risque de se couper le doigt, et dans le deuxième cas, il risque de se passer à peu près rien du tout. Et je crois que ce qui est vrai à l'échelle individuelle, hein, pour nous-mêmes, l'est aussi pour nos églises. L'église de Nyon, je crois, a besoin de celle de Gland. L'église de Gland a besoin de celle de Rolles, etc., etc. Nous avons besoin, dans le corps que nous formons tous ensemble, des uns des autres. Aussi, parce que nous sommes différents, et c'est le deuxième point de notre texte. Nous sommes différents les uns des autres. Versets 15 et 16 et 21. Imaginez un instant un corps composé uniquement d'yeux ou de mains. Tout de suite, vous direz que ce n'est pas un corps. Chaque membre dans un corps est unique, distinct et irremplaçable. Et c'est ce qui fait la beauté d'un corps, un corps harmonieux, c'est qu'il y a bien des membres avec des utilités différentes et ils sont distincts et irremplaçables. Et c'est vrai que dans nos quêtes d'identité, dans une église, parfois, nous sommes parfois tentés de vouloir ressembler à l'un ou à l'autre, à l'une ou à l'autre, à quelqu'un qui nous inspire, qui nous donne envie d'aller plus loin. Et c'est peut-être pas complètement illégitime, mais je crois que ce texte nous invite à être nous-mêmes et à trouver notre place dans l'église dans laquelle Dieu nous a placés. À l'échelle de l'église, parfois, il est vrai que plutôt que de construire une communauté à partir de la diversité, nous avons tendance à laisser chaque sous-groupe former sa propre unité. Il y a ainsi le coin des geeks, le coin des gens qui aiment telle ou telle chose. Mais la communauté qui vit de l'esprit, la communauté chrétienne, l'Église, est engagée par l'Écriture dans la lutte coûteuse qui consiste à vivre la réconciliation de tous les humains entre eux et avec Dieu. En unissant noir et blanc, hommes d'affaires intellectuels et pragmatiques, nouveaux croyants et disciples mûrs, juifs et païens, jeunes et vieux, hommes et femmes, célibataires et mariés. Eh bien oui, chers amis, l'Église n'est pas un club où nous partageons de fait tous les mêmes intérêts, les mêmes affinités. On pourrait même dire qu'il faut de tout, ou même de tous, pour faire une bonne Église. Nous sommes différents les uns des autres et c'est seul Dieu qui lui-même nous a rendus différents qui peut nous maintenir ensemble. Alors c'est vrai, c'est une tâche délicate, compliquée parfois, mais c'est la tâche de l'Église locale, mais aussi des églises de notre union. Troisième aspect qui se dégage de ce texte, c'est que nous devons prendre soin les uns des autres. Et ça, c'est les versets 22 à 26 qui disent cela. Il y a un soin mutuel, dit Paul, qui fait partie intégrante du corps. Le texte dit « c'est ainsi que Dieu a disposé le corps », littéralement « mélangé le corps » dans le grec. Le mot grec employé ici a pour signification fondamentale de mélanger différentes parties du corps dans un but précis, c'est-à-dire de produire un soutien mutuel et une interdépendance. Pour le dire autrement, Dieu veut que les membres d'une église locale reconnaissent à quel point ils dépendent les uns des autres. Car cela les incite à éliminer ce que le texte dit la discorde ou le schisme. Il faut reconnaître à quel point nous dépendons les uns des autres. Par ailleurs, l'Église doit être prête à accorder une attention particulière aux frères et sœurs les plus faibles, le texte le dit, ceux qui peuvent se sentir facilement inutiles, mais qui sont en fait essentiels à la santé du corps. Ensuite, cette attention doit s'exprimer à la fois en se réjouissant avec ceux qui se réjouissent et en pleurant avec ceux qui pleurent, dit Romains 12, l'autre texte qui parle de l'Église comme corps de Christ. On a parfois plutôt que d'insister sur le pleurer avec ceux qui pleurent, j'aimerais aujourd'hui insister sur le fait que nous avons parfois des difficultés à nous réjouir avec celui, celle qui est bénie et qui s'en réjouit, avec l'Église qui grandit, avec l'Église qui prospère, sans éprouver une certaine jalousie ou une certaine amertume. Mais c'est là un don de Dieu que de savoir se réjouir avec celui ou celle qui est bénie. Par ailleurs, lorsqu'un membre souffre, d'une manière ou d'une autre, il est essentiel que le corps tout entier ressentent la douleur. Et vous en avez tous fait l'expérience, j'en suis sûr. C'est une réalité du corps. Du moment où nous avons mal quelque part, c'est tout notre corps qui a mal. Eh bien, pour cela, je dirais qu'il faut parfois que le membre du corps puisse l'exprimer, puisse dire qu'il a mal, qu'il souffre. Sinon, si on laisse un membre souffrir de notre corps sans lui accorder le soin nécessaire, eh bien, c'est la gangrène qui risque de s'immiscer là. Alors pour conclure, j'aimerais conclure autour du verset 27 qui nous dit que « En tant que chrétien, mon besoin de sécurité est satisfait par l'assurance que j'appartiens au corps de Christ. Mon besoin d'identité est satisfait par la reconnaissance et la prise en compte du fait que j'ai une contribution particulière à apporter au corps. Mon besoin de sens des responsabilités » on l'a tous, est satisfait par le souci des autres dans le corps. J'ai besoin de toi, je me sens avec toi, je me réjouis avec toi. Finalement, si le corps du Christ est placé dans le monde, et ce n'est pas rien, c'est pour servir. Le ministère est la vocation même de ce corps, sa vocation quotidienne. Alors pour accomplir son œuvre sur terre, Jésus avait un corps fait de chair et de sang. Mais afin d'accomplir son œuvre aujourd'hui, Jésus a un corps fait d'êtres humains, vous et moi. Et en quelque sorte, nous avons le même ministère que celui de Jésus. Un ministère qui s'oriente à travers l'adage suivant, un ministère non pour être servi, mais pour servir. Alors, cher corps de Christ, ce coronavirus nous a créé quelques courbatures, il faut le dire. Et il est temps de reprendre son souffle, ce souffle donné par Jésus qui en est la tête. Alors que nous arrivons gentiment au terme de cette période de semi-confinement, causée par ce fameux coronavirus, il est temps de se dégourdir les jambes, de s'échauffer, de faire quelques exercices pour se mettre en mouvement. Le chapitre qui suit immédiatement notre chapitre est le 1 Corinthiens 13, texte connu, fameux, qui parle de l'amour. Et je pense que pour toujours mieux aimer nos contemporains, toujours mieux être pertinent dans le monde qui nous entoure, il faut parfois apprendre à aimer son propre corps, apprendre le corps que Jésus, la tête, nous a donné et dont il nous donne aujourd'hui de pouvoir réaliser tout à nouveau. Alors je prie que cette prédication vous bénisse, vous renouvelle dans votre espérance, dans votre joie d'appartenir à ce corps. Et je vous souhaite une toute bonne suite de cultes.